Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Et bon lundi neigeux et délicieusement froid. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon démontre que la loi sur les lanceurs d'alerte au Québec est vraiment mal ficelée. Il le fait en se penchant sur l'enquête du protecteur du citoyen sur le ministre de l'Éducation qui a fait grand bruit la semaine passée. Le prof Taillon regrette l'élargissement de la mission du protecteur pour y inclure les divulgations, mais aussi la manière dont la loi place toutes les fautes dans le même panier, fautes éthiques de gestion civile, pénale et la confidentialité, évidemment, qui a le dos large. En tout cas, le protecteur du citoyen ne devrait pas blâmer des acteurs qu'il n'a pas entendus. Audi alteram partem, comme le disait Bernard Landry. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau Robitaille.
Mais bonjour Rémi.
Bonjour Antoine.
De retour en studio, en direct. C'est formidable de voir le chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
Et je partage complètement ton enthousiasme à l'égard de ces flocons de neige.
Ben oui.
Oui, notre pays, c'est l'hiver.
Exactement.
Alors on mord dedans.
Mais qu'y a-t-il en Tunisie, Rémi? Est-ce qu'il y a un produit réconciliateur qui a été mis dans l'eau?
Ouais, on dirait qu'il y a eu un assouplisseur, peut-être.
Oui, c'est ça.
Dans le cycle de lavage. Justin Trudeau et François Legault se sont rencontrés brièvement. Écoute, je suis très sceptique quand même, là.
Ah oui, hein?
Malgré là, le fait que les deux ont décidé là, de se la jouer bon joueur, justement, là-bas. Monsieur Legault a dit aux journalistes qui l'accompagnaient, c'est pas le moment de faire d'amener nos querelles à l'étranger. Bon, je comprends. Ceci étant, il y a des différends très importants, des différences de vue entre Québec et Ottawa. Et François Legault et Justin Trudeau se sont parlé en marge du sommet de la francophonie. M. Legault a parlé du fait qu'il avait mis la table avec ses revendications pour une prochaine rencontre en décembre.
Ouais.
Mais ils ont vraiment gardé profil bas dans les deux cas, autant M. Legault que Justin Trudeau. On va faire comme un petit sommaire de ce qu'il y a eu là,
ouais.
comme discussion. M. Legault a profité de son moment là, devant les chefs d'État au sommet de la francophonie pour vanter la loi 96, donc la nouvelle mouture de la loi 101. Et il a rappelé donc l'importance de faire mieux pour le français. Il a parlé de son inquiétude en raison du recul ici au Québec, principalement à Montréal. Donc, il est revenu sur les raisons pour lesquelles, justement, il fallait faire la nouvelle loi 101. Et avec M. Trudeau comme tel, ben, il a été question de la langue, il a été question des transferts en santé. Et on a eu l'impression qu'il y avait eu comme un certain rapprochement ou qu'on avait commencé à planir des petits différends. Mais ceci étant, comme M. Legault l'a dit quand même au terme du sommet, il y a toujours pas là, de l'ombre d'un début de proposition du gouvernement fédéral pour verser davantage de transferts en santé. Alors qu'on le sait, les provinces réclament depuis quelques années un rehaussement des transferts pour que ça atteigne 35 euh, 30 3% en fait, mm-hmm. Du financement des soins. Ça ferait 6 milliards de dollars de plus par année pour le Québec. Bon. Alors là, autant M. Duclos a répété à quelques reprises, je l'ai réentendu dire
ça. Le ministre fédéral de la Santé.
Oui, lui prétendait que lorsqu'il y a eu une rencontre entre les ministres de la Santé des provinces et lui-même, là, qu'ils étaient tout près d'une entente.
Ben oui.
N'eût été, là, des interventions des premiers ministres, là, qui voulaient.
C'est difficile de savoir qui dit vrai, là.
Ouais.
C'est comme dans l'émission des années 70,
là. Ouais,
qui dit vrai? Oui.
Alors, M. Duclos a tenu ce discours-là. Dans le cas de Justin Trudeau, lui, ce qu'il a dit, c'est que il tenait à ce que le Québec rende disponible ses données sur la santé. Mais je comprends toujours pas en quoi le fédéral, lui, a besoin de ces données-là. Parce que si vraiment c'est une question de mettre en commun nos informations avec les autres provinces...
Mais ça peut se faire avec les ministres de la Santé. Ça peut se faire avec le Conseil de la Fédération.
On n'a pas besoin
de fédéral. On est une fédération, là.
Oui.
On n'a pas un grand frère à Ottawa qui est censé analyser des données sur un... dans un champ de compétences qu'il maîtrise même pas.
Ben c'est ça, pourquoi le ferait-il? Parce que c'est pas lui qui va prendre des décisions sur la façon. Non, moi non plus, je dis les...
Le gouvernement Legault a l'air d'être ouvert à transférer.
Oui, en même temps, je trouvais qu'il y avait un peu comme une non-nouvelle entre guillemets là-dedans, parce que comme il l'avait dit dès le départ, M. Dubé et ou François Legault, c'est que les données du Québec, ben ils sont rendues publiques, donc ils sont comme disponibles un peu de facto là.
Ouais.
Mais pourquoi les partager avec le fédéral si c'est pour aider les autres provinces? On va les transférer aux autres provinces. Dans le fond, on va les partager avec les autres provinces. Alors bon, c'est un peu louche. C'est comme si, je sais pas, là, si M. Trudeau a évolué un peu dans sa pensée, qu'il est prêt peut-être à...
Il a vanté le système québécois.
Ouais,
ça devrait être un modèle, le système de données transparentes et publiques québécois.
Bon, alors est-ce que vraiment il a évolué là-dessus et il s'apprête dans un avenir plutôt rapproché à faire un pas significatif en termes de financement pour les provinces, mais qui tient comme à sauver la face dans le fond et à montrer que, regardez, là, je voulais des conditions, il va y en avoir, et la condition c'est le partage des données, mais dans le fond, c'est pas tant un problème, donc je sais pas.
On est comme dans un marais.
Oui, exactement, mais chose certaine,
c'est que... Rouge.
On est dans un marais, c'est extrêmement important, c'est crucial d'en sortir.
Ben oui, il y a des gens qui niaisent à l'urgence là actuellement, ouais. qui souffrent, tu sais, en tout cas.
Alors l'important, c'est qu'il y ait des résultats. Bon, là, donc dans les discussions, comme je l'ai dit... Ils se sont pas tapés dessus là-bas en marge du sommet, et il faudra attendre ce qu'on pourrait dire la vraie rencontre en décembre entre les deux pour voir vraiment qu'est-ce qui a avancé.
Ouais. Par ailleurs, Rémi, tu trouves que le gouvernement Legault est un peu amorphe ces temps-ci?
Oui, ben parce qu'on voit tellement la différence entre la période post-élection premier mandat et post-élection deuxième mandat. C'est premier mandat, là, une équipe arrive au pouvoir, ils sont convaincus de changements à apporter, il y a des choses qui urgent, c'est le changement. Les élus dans ce temps-là veulent démontrer rapidement que, justement, ça change quelque chose, là. C'est pas vrai, là, quand les gens disent que d'un politicien ou d'un parti à l'autre, c'est la même chose. Donc, il y a vraiment comme une hâte,
Là, on est dans continuons.
Là, on est dans continuons, mais et pourtant, même si beaucoup de ministres importants sont demeurés dans leurs fonctions, là, par exemple, en santé, en économie, finance, etc., on a l'impression que ça bouge pas. Et tout à l'heure, Mario Dumont parlait de Bernard Drainville, on l'entendait dire, bon, il n'a pas vraiment donné d'entrevue. Nous, on l'a demandé... Et il y a pas de, parce qu'on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il veut faire.
Moi, je l'ai essayé de l'arrêter à l'entrée du caucus. Il a continué à marcher. Tu sais, j'ai fait de la radio pendant un an, moi, avec Bernard Drainville. Je le connais très bien. il me regardait avec un petit sourire, puis il voulait pas rien dire. Je lui disais, écoute, Bernard, comment ça se passe, votre tournée des écoles? Puis il disait, pas de commentaires, je vous reviendrai là-dessus. Super prudent.
Exact, donc pas d'entrevue pour donner des indications sur des orientations ou des priorités. Moi, j'avais pensé, tu vois, aussi au ministre Pierre Fitzgibbon, qui est maintenant responsable de la métropole. Et tu sais, à quel point Montréal a fait parler d'elle pour des mauvaises raisons dans les derniers mois. Donc, je me disais, ben là, il y a un nouveau ministre. Est-ce qu'il veut donner comme une impulsion? Est-ce qu'il... je pensais qu'il serait intéressé, donc, de faire connaître lui aussi ses priorités pour la métropole. Puis non, on nous dit pas d'entrevue dans ce sens-là non plus. Bref, on sait que M. Legault, il l'a dit lors de l'assermentation de son nouveau conseil des ministres, qu'il demandait à chacun des ministres de réfléchir à trois priorités.
À trois priorités.
Et qu'il fallait que dans les prochaines semaines, les ministres rencontrent M. Legault pour faire part de ces trois priorités qu'ils veulent réaliser ou sur lesquels ils veulent travailler. Et on dirait qu'en attendant, ben là, ça se fait graduellement, mais ils sont 30 ministres. Donc, alors là, c'est sûr que M. Legault peut pas les rencontrer si rapidement. Là, tous, là, c'est un par un. Moi, on me dit donc que même après les deux semaines de travaux parlementaires, M. Legault va continuer à faire ces rencontres-là. Ça veut dire qu'il y a des ministres qui vont faire état de leurs priorités après les deux semaines de travaux parlementaires, quelque part avant Noël. Donc, on a l'impression que c'est comme si tout était un petit peu là englué jusqu'au début 2023. Il y a peu de choses qui bougent. On s'est informé de ce à quoi aura l'air cette semaine. Et bon, à part le Conseil des ministres mercredi, on sait que bon, M. Legault, là, présentement, est de retour vers le Québec là, après le sommet en Tunisie. Mais bref, c'est étonnamment tranquille.
Tu sais, quand tu penses, par exemple, et c'est Patrick Bellerose, notre collègue, qui me le faisait remarquer la semaine passée, il y a eu deux cégeps qui ont été confinés dans la dernière semaine, dans les deux dernières semaines, des problèmes et le ministre de la Sécurité publique, François Bonnarnel, est resté quoi à l'entrée du Conseil des ministres, mais aussi du caucus?
Ouais, c'est ça, puis c'est... Pourtant, c'était pas son habitude parce que au transport, il a toujours été très prompt à réagir, à se porter présent quand il annonçait des tempêtes, des choses comme ça. Et puis, ben, t'as raison de le souligner. Ça, c'est un autre cas où on a observé le silence.
Peut-être le repos après la campagne électorale. En tout cas,
il y a peut-être un peu de ça, mais
on est impatient d'avoir des entrevues.
Oui, c'est ça. Mais c'est que dans le fond, c'est qu'on a hâte d'avoir des indications.
C'est ça.
Sur les premières actions.
Où s'en va ce gouvernement?
Oui, que vont poser les membres du gouvernement.
Merci beaucoup, Rémi Nadeau.
À demain.
On se reparle demain.